Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en 2020 à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter plus de tribunal des flagrants délires, l'émission culte du président Claude Villers. Avec Pierre Desproges en procureur de la République des Proches françaises et Louis Régaud en avocat commis d'office, l'avocat le plus bas d'Inter. Le 16 septembre 1982, Jean d'Ormesson s'avance, il est appelé à la barre. Il répond à l'accusation de nécrophilie en raison de ses écrits narrant le plus souvent des histoires du passé, de violation de sépulture pour avoir, dans son dernier ouvrage, réveillé le souvenir de Chateaubriand. Enfin, il est inculpé d'incitation de mineurs à la vieillesse pour avoir donné un mauvais exemple à la jeunesse, étant devenu à l'âge de 48 ans le plus jeune académicien de France en 1973. Son témoin, c'est l'écrivain Philippe Solers. Alors, plus de justice, oui, soirée flagrant délire sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la Cour ! L'avocat de la Défense, Louis Régaud ! Le procureur général de la République, Pierre Desproges ! Le président, Claude Villers !
Nous sommes le tribunal, notre corps national, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec ou pas d'innocents. Tout le monde y est coupable, nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir, y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Jean d'Ormesson.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
D'Ormesson, Jean, je suis né en 1925. Et qualité, je crois que vous allez surtout assister sur mes défauts, je dirais, non ?
Non, mais également sur votre profession, donc il vaut mieux la dire aussi.
Profession, écrivain.
Écrivain. Alors, Jean d'Ormesson, vous êtes inculpé de nécrophilie. En effet, tous vos ouvrages racontent des histoires du passé et d'un temps révolu. On peut citer quelques-unes de vos œuvres, comme par exemple « La gloire de l'Empire »,« Au plaisir de Dieu », qui est mort depuis longtemps, chacun le sait, « Le vagabond qui passe sous une ombrelle trouée », depuis la France a connu un autre éclat, « Dieu, sa vie, son œuvre », c'est également de l'histoire ancienne, et enfin, « Mon dernier rêve sera pour vous », qui vient de paraître chez Lattès, et qui est la biographie sentimentale de Chateaubriand. Et à ce propos, vous êtes également inculpé de violation de sépulture, puisque dans votre dernier ouvrage, « Mon dernier rêve sera pour vous », vous réveillez le souvenir de Chateaubriand, l'auteur des Mémoires d'outre-tombe. Enfin, et pas le moins, vous êtes inculpé d'incitation de mineurs à la vieillesse. Vous êtes devenu en 1973, vous aviez alors 48 ans, le plus jeune académicien de France, et ce n'est certainement pas un exemple pour la jeunesse. Parce qu'académicien, c'est un métier de vieux. Vous imaginez des enfants qui diraient à leurs parents quand ils leur poseraient la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»« Quand je serai grand, je vais faire académicien. » Vous pensez que des enfants pourraient dire ça ?
Monsieur le Président, je ne sais pas si je ne connais pas bien le droit français, mais si vous me permettez, je voudrais plaider en effet coupable.
Vous plaidez coupable ?
Oui.
Bon, attendez, calmez-vous, monsieur d'Ormesson, et lâchez la chaise d'abord.
Mais là, vous allez dire. Parce qu'il commence à prendre les chaises d'une main, puis après il les embarque, au moins.
Vous reconnaissez les faits, et vous plaidez coupable, vous
Absolument.
L'avez reconnu vous-même. Mais dans le droit français, on ne plaide pas coupable. C'est dans le droit anglo-saxon.
Oui. Enfin, je reconnais les faits, oui.
Alors, Jean d'Ormesson, vous êtes donc né en 1925 à Paris. Vous êtes le fils d'André d'Ormesson, qui fut ambassadeur de France, et le neveu de Vladimir d'Ormesson, qui était également académicien, qui était aussi un directeur général de l'ORTF. Vous-même, d'ailleurs, avez été directeur. C'est une situation de famille, dirait-on, puisque en 1974, vous étiez directeur du journal Le Figaro. En 1971, donc, vous avez eu le Grand Prix du roman de l'Académie française pour La gloire de l'Empire. Et vous avez eu pas mal de compliments à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous avez vraiment pensé à devenir académicien ou qu'on vous l'a proposé ?
Oh non, monsieur le Président, j'y pensais depuis bien plus longtemps.
Depuis plus longtemps. Effectivement, je crois que vous avez eu quelques déclarations à ce sujet. Moi, je voudrais revenir justement sur ce que l'on appelle l'académisme. Parce que normalement, un académicien français, c'est quelqu'un qui va défendre l'académisme. Or, vous avez une jeunesse quelque peu remuante. Et dans un article du Quotidien de Paris du 6 janvier 1981, signé Éric Neuhoff, on apprend des choses assez étonnantes. Si les éditeurs étaient astucieux, ils regrouperaient en coffret les volumes précédant la gloire de l'Empire. Autour, ils mettraient une bande d'une couleur criarde avec cette formule aguichante, ce que Jean d'Ormesson n'écrirait plus aujourd'hui, ça se vendrait comme des petits pains dans la foulée de Dieu, sa vie, son œuvre. Qui voit-on ? Un jeune homme insouciant qui déclare tout de go « ma stupidité m'atterre » et ajoute « je n'ai pas de génie, je suis idiot ». Au fil des phrases qu'il lui crut, on relève des « je leur dis merde », « je m'en fous », « la barbe », « je m'en bats l'œil », « ah les cons », « je les emmerde ». Vous reconnaissez les faits ?
Oui, monsieur le Président, je les reconnais, oui.
Et à l'Académie française, on tolère ce genre de langage ?
Oui, monsieur le Président. On le tolère. Est-ce que je peux raconter quelque chose qui se rattache peut-être assez directement au débat ?
Je vous en prie.
Quand je suis arrivé à l'Académie, nous étions à la lettre D, je crois, et nous sommes maintenant à la lettre G. C'est-à-dire que nous avons fait D, E, F, G, nous avons fait 3 lettres en 7 ans.
C'est bien ça. Et combien de bâtons ?
Ce qui explique que nous n'allions pas extraordinairement vite. Et entre D et G, nous avons trouvé, évidemment, le mot démerder. On a discuté sur le mot démerder. Et on s'est demandé si on allait mettre dans le dictionnaire de l'Académie le mot démerder. Et il y a un de nos confrères, qui était Roger Caillois, qui a rappelé que le mot « emmerder » était dans le dictionnaire de l'Académie. Et il a donc proposé qu'on accepte le mot « démerder ». Mais il a semblé à l'Académie que le mot « démerder » était plus vulgaire que le mot « emmerder ». Et on n'a pas accepté le mot « démerder ». Alors Caillois, furieux, s'est levé et a dit « Je comprends bien ce qui se passe ici, on peut bien y entrer, mais on ne peut pas en sortir. »
C'est un problème de fond, si je puis dire. Dans un livre qui s'appelait « Au revoir et merci », on peut lire une phrase assez surprenante sous votre plume. « La vérité est que le propre de l'homme est de manger, de boire, de chier, de pisser, de dormir et de baiser. »
Oui, monsieur le Président, vous ne faites rien de tout ça.
On peut se voir plus tard, mais ça dépend pourquoi. Mais je veux dire que tout cela, encore une fois, paraît étonnant parce qu'on a un peu l'impression, et vous avez une image qui est celle d'un moraliste.
Il m'a semblé qu'il était plus proche de la nature humaine de faire ces différentes choses que les choses plus élevées que l'on prête en général à l'humanité. Voilà pour le premier point. Deuxième point, on a demandé souvent... Il y a eu une enquête des surréalistes à des écrivains et on leur demandait « Pourquoi écrivez-vous ? » Et alors les uns disaient « Pour dire la vérité », les autres disaient « Pour parce que je me cherche moi-même », enfin des choses très élevées. Et il n'y a eu que 2 réponses qui ont eu grâce, qui ont trouvé grâce aux yeux des surréalistes. La première réponse était de Paul Mort, qui disait « J'écris pour être riche et honoré ». Et la deuxième réponse était de Paul Valéry qui disait « J'écris par distraction ». Eh bien, peut-être, monsieur le Président, que pour répondre à votre question qui me paraît extraordinairement pertinente, peut-être que je continue à écrire dans le Figaro Magazine par distraction.
La Cour appréciera. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle différence vous faites, vous, entre quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche. Est-ce que ça existe ?
Seulement, on m'a toujours dit que ne pas faire de différence entre un homme de droite et un homme de gauche, c'est se situer à droite. Mmh. Alors, comme je ne fais pas de différence entre un homme de droite et un homme de gauche, que je pense que ça se recoupe bien souvent, par exemple, est-ce que Staline est un homme de droite ou est un homme de gauche ? Moi, il me semble qu'il a tous les traits de l'homme d'extrême droite. Mais on m'assure que c'est un homme de gauche. Alors, je ne vois plus
non,
très bien.
Non, c'est Jaruzelski qui est de gauche. Non. Vous n'avez rien compris.
Voilà, c'est ça. Alors voilà. Alors je ne comprends plus rien du tout si Jaruzelski est de gauche. Exactement. Monsieur le Président, est-ce que je peux prendre le procureur général comme avocat? Pardon.
À mon avis.
Excusez-moi.
Ah, j'ai gaffé là. J'ai gaffé.
À mon avis, l'objectivité du procureur est plus que douteuse, mais ça, c'est pas nouveau.
Bon, ben voilà, il m'attaque. Moi aussi, je suis de droite, mon Jeannot. On est au moins deux.
Je voudrais revenir un peu, justement maintenant, sur les processus d'élection à l'Académie française. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cela se passe?
Comme partout ailleurs.
C'est pas vrai, j'ai fait une demande, j'ai été refusé.
C'est parce que t'es con.
Comme partout
ailleurs. Ah, ça veut rien dire.
C'est-à-dire qu'il y a...
S'il vous plaît.
C'est-à-dire je m'excuse.
C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il faut de magouille,
oui.
Qu'il y a ce qu'il faut de pression... Et qu'est-ce qu'il faut de choix libre et volontaire?
On dit qu'il faut faire, disons, un peu sa cour aux autres académiciens, aux survivants.
Alors, vous savez, Monsieur le Président, c'est tout à fait vrai. Et si vous arrivez pour vous présenter à l'élection en disant, par exemple, Monsieur Dutour est un imbécile qui a écrit des livres très mauvais et Monsieur Ionesco, je comprends absolument rien à son théâtre qui est stupide, eh ben, il n'est pas sûr que vous ayez la voix de Monsieur Dutour et de Monsieur Ionesco. Tandis que si vous dites, Monsieur...
Henri Bordeaux est un con, c'est pas grave, il est mort.
C'est moins grave, absolument. Voilà. Bon, donc, il faut d'abord faire la cour. Et puis, alors, il y a toute une série de... vous savez, il y a toute une série de rites qui entourent cette élection. Il y a une formule qui est très connue, qui disait... je crois que c'est Renan qui disait ça, qui était de l'Académie, et qui disait « Le drame avec les candidats, c'est qu'ils prennent nos politesses pour des promesses, alors que nos promesses ne sont que des politesses. » Et puis, souvent, les académiciens promettent leur voix aux candidats et puis ne tiennent pas parole. Ça arrive aussi. Il y en avait un qui disait, par exemple, « Je lui ai donné ma parole, il voudrait encore ma voix. » Alors, vous avez des tas d'histoires comme ça qui jettent une lumière un peu trouble sur l'Académie. Vous savez, par exemple, qu'à un moment donné, Pierre Loti s'est présenté et a été reçu. Or, Pierre Loti, ses adversaires ont dit, ce qui était la stricte vérité, qu'il était peut-être un petit peu homosexuel. Ce qui était à l'époque.
Comment on peut être un petit peu...
Bah, un petit peu, bah, pas tout à fait au fond, enfin.
ça dégénère. Peu.
Enfin, je voulais dire sur les bords.
De toute manière, c'est plus indélicat.
Et alors, on a dit ça à Renan, toujours le même, et Renan a pris l'air chafouin et a dit « Nous verrons bien ».
Ah, très joli. Nous allons en venir à un sujet qui a l'air de vous préoccuper beaucoup, puisque, d'une part, dans les fonctions naturelles que vous avez pu décrire, que nous avons citées tout à l'heure,
oui, c'est vrai que ça m'a...
vous en parlez, et puis, bien sûr, votre dernier
ce
ouvrage...
Ce matin, ça n'allait pas, par exemple.
Ah bon?
Oui, c'est pour ça que je ne suis peut-être pas dans une forme éblouissante.
Je ne demanderai pas laquelle des fonctions.
La mais plus importante. Allons... La plus importante.
Mais quand nous allons en venir, justement, à, disons, plutôt la vie amoureuse, c'est de celle-là dont je voulais parler.
Je vous laisse le choix.
Oui, mais écoutez, nous n'avons pas fait d'enquête à ce sujet. En revanche...
Yourcenar, c'est une copine pour vous.
Il y a des trous. Si j'ose dire, Monsieur le Président, il y a des trous dans votre enquête.
Eh bien, écoutez, vous savez, il suffit de les remplir. Si vous avez de la santé, vous y arriverez. Je voulais en venir donc à cette vie amoureuse, de, entre autres de Chateaubriand, mais de pas mal de vos héros dans les différents romans. Et vous-même, à propos des femmes, vous avez écrit, enfin vous avez dit plutôt à un journaliste du Matin, « J'ai écrit certains livres pour épater des jeunes femmes auxquelles ça ne fait ni chaud ni froid, cela ne les a jamais empêchées de me quitter pour des imbéciles. »
Comme c'est vrai.
C'est vrai ?
Non, oui.
Vous avez eu beaucoup de regrets ? Ou des remords ?
Des regrets. J'ai plus de regrets que de remords. Sans ça, je ne serais pas ici.
Mais vous avez une idée de la femme qui est un peu particulière, il faut le dire, puisque à la question du juge d'instruction, vos héroïnes favorites dans la vie, vous avez répondu « Celles qui font le moins parler d'elles, car c'est pour recommencer chaque jour le même travail ingrat qu'il faut le plus de courage. Je connais bien peu d'hommes qui seraient capables de le faire. » Ça, c'est ce que vous avez déclaré aujourd'hui, vous, académicien, en 1982.
C'est un peu grandiloquant.
Pardon ?
C'est un peu grandiloquent.
C'est un petit peu, oui. Ouais. Mais vous aviez d'ailleurs déclaré d'autres choses à une époque où vous étiez plus jeune. Et vous disiez d'ailleurs à cette époque-là, « Les femmes m'ennuient vite, elles ne m'intéressent guère que pour coucher avec elles. » Vous avez dit également, à la sortie d'une discothèque, lorsque j'en sortais au petit jour et que je me retrouvais dans la rue à l'heure des ouvriers, des fêtards et des condamnés à mort, je me maudissais d'avoir perdu un soir de plus à écouter des connasses. Alors, je voudrais savoir quelle est cette évolution ou la libération de la femme qui a pu...
Je trouve malheureusement que j'avais plus de talent il y a 15 ans qu'aujourd'hui dans mes réponses.
À propos des femmes.
Oui.
Étudier la vie amoureuse d'un personnage qui est plutôt resté célèbre pour sa manière d'écrire et pour ce qu'il a pu écrire vous paraît normal. En revanche, je suis sûr que vous êtes révolté lorsqu'un journaliste de Ici Paris ou d'un autre de ses organes de presse se met à se répandre sur la vie amoureuse d'X ou Y. On peut parler de la vie amoureuse des gens lorsqu'ils sont morts, si je comprends bien.
Oui.
Parce que vous avez certains détails dans ces livres.
Vous savez, c'est une question très importante. Et j'ai reçu des lettres me disant « Vous n'aviez pas le droit de dire un certain nombre de choses que vous dites sur Chateaubriand, même si elles sont vraies. » Personne, je crois, il peut y avoir des erreurs de détail dans le livre, personne n'a contesté l'exactitude d'ensemble. J'ai écrit beaucoup de livres où la vérité se mêle à l'imagination. À partir du moment où on est un homme public, eh bien, votre vie appartient au public. Et il me semble que tant qu'un écrivain n'est pas entré, ou un artiste, ou un musicien, n'est pas entré dans le domaine public, sa vie n'appartient pas au domaine public. Mais qu'une fois que ce domaine public est établi, eh bien, on a le droit et presque le devoir de tout chercher sur lui. Et ce domaine public, il est établi par la loi à 50 ans après la mort.
Monsieur le procureur de la République, avez-vous une question à poser au prévenu ?
Oui. Est-ce que vous savez, une autre question, d'où vient votre nom ? L'origine la toute première origine.
Alors, nous nous appelons Lefèvre d'Ormesson. Oui. Lefèvre, c'est probablement des orfèvres, comme tous les Lefèvres.
Et d'Ormesson, ça vient d'un de vos aïeuls qui était poète, qui est devenu allumeur de réverbères au début de sa surdité. Et quand il allait allumer les réverbères, il disait aux gens... J'éveille vos lumières quand j'endors mes sons. C'est joli.
Oh, c'était mal. Je vous remercie beaucoup, monsieur le procureur. Est-ce que je peux ajouter, dans cette même ligne, que Louise de Villemorin avait fait un petit poème sur moi et ma famille. Et je ne sais pas chanter, vous me pardonnerez, mais je vais essayer de vous le fredonner. C'était un peu comme ça. Les ormes sont comme la lune. Ils sont sujets au changement. Comme la lune et au mauvais temps. C'est de Louise de Villemort.
Très beau. Nous allons donc maintenant procéder à l'audition du premier témoin, huissier appelé.
Nous appelons à la barre Philippe Solers.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Solers Philippe, 45 ans, écrivain.
Bon, vous gérez.
Vous jurez dire la vérité, toute la vérité.
Toute la vérité, je le jure. Et je viens de la dire.
Vous êtes né le 28 novembre 1936 à Bordeaux. Vous avez fait des études supérieures à Paris. Et vous avez fait des débuts littéraires salués par Mauriac et Aragon. Vous avez dit à propos de Jean d'Ormesson, « Je connais plusieurs personnes très injustes qui pensent que Jean d'Ormesson est un maître d'hôtel que l'on peut louer pour un plateau de télévision comme l'a fait Allier chez Suffert. Il paraît qu'il n'a pas son pareil dans le style stylé. Personnellement, je trouve cette calomnie odieuse. J'aime Jean d'Ormesson dans la mesure où il n'y aura jamais assez d'aristocrates à l'Académie. »
Mais oui, voilà, je répète purement et simplement ce que j'ai dit à l'époque. Et il me semble que d'Ormesson souvent se sous-estime. Il me semble que souvent son masochisme l'entraîne trop loin parce qu'on lui a tellement dit et répété que c'était odieux d'être juif, je veux dire, pardon, aristocrate, que son vrai syndrome est là, n'est-ce pas? Et donc il se cache, il se dissimule, il n'ose pas avoir la fierté de ses origines tout à fait. Et je crois que c'est à d'autres, ceux du camp d'en face, de lui rendre cette fierté, car il a le droit à être absolument ce qu'il est, sans aucune rougeur.
Vous avez dit le clan d'en face. Vous avez dit
oui, enfin, moi, je suis en désaccord avec d'Ormesson, puisque je suis de gauche et il est de droite. Absolument. Alors, justement, je pense qu'il a droit à la fierté de ses origines. C'est ça, être de gauche.
Est-ce que vous avez envie de...
C'est trop... Hein.
Est-ce que vous avez envie, vous aussi, d'entrer à l'Académie française?
Pas du tout.
Non, mais nous en avons envie.
Ah,
qu'ils viennent.
Ah, c'est une proposition ?
C'est une proposition ferme.
Mais dans la mesure où Jean d'Ormesson a dit que lorsqu'on était sûr d'avoir du talent, on ne devait pas forcément entrer à la télévision, il me place devant un choix difficile et je dis non.
Vous êtes, Philippe Solers, l'un des, disons, des pionniers de ce que l'on a appelé le nouveau roman. Je parle au passé parce qu'il semblerait que vous soyez le dernier à continuer de pratiquer ce nouveau roman.
Oui, mais tout revient, vous savez, il y aura un nouveau roman qui... Oui, enfin, ça fait partie des oscillations, c'est pas très grave. Mais pourquoi me demandez-vous ça, monsieur
parce
le Président ?
Parce que à l'époque où vous avez commencé à écrire et à vouloir, faire ce nouveau roman, j'aurais aimé savoir ce qu'à cette époque-là, vous pensiez d'un écrivain... assez classique comme Jean d'Ormesson.
Ah, probablement du mal.
Alors vous pensez également...
Mais je pense que les choses depuis ont beaucoup évolué et qu'en fait, on voit bien que s'agissant de d'Ormesson aujourd'hui, il a très peu été question de sa littérature. On a à peine effleuré la question littéraire. Nous sommes dans une époque, n'est-ce pas, où il faut se justifier politiquement à chaque instant. Alors, on lui a fait un procès politique parce qu'il écrit au Figaro Magazine, parce qu'il est un homme de droite, etc., parce qu'il s'appelle d'Ormesson et parce qu'il est catholique, il faut bien oser le dire, et que par conséquent, il est un petit bébé vicieux qui a passé son temps à avoir eu des vision de cornus et voluptueux, ce qui prouve bien à quel point la répression s'exerce. Et comme je suis de gauche, donc pour les cornus et voluptueux, je défends fermement aujourd'hui le catholicisme, puisque c'est lui et lui seul qui peut assurer une jouissance sexuelle assez approfondie. Par conséquent, nous sommes loin de la littérature. Alors, s'agissant de la littérature de d'Ormesson à l'époque, je n'aurais probablement pas été d'accord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il défend les cornus et voluptueux. Alors, je suis d'accord parce que je suis de gauche et je pense qu'il est lui aussi de gauche. Voilà où le problème se complique. Aujourd'hui, d'Ormesson est de gauche. Il rejoint le camp des intellectuels de gauche. C'est étrange, mais c'est comme ça.
Monsieur le Président, est-ce que je peux vous rappeler une formule d'un homme de droite d'il y a 100 ans à peu près ?
Vous savez qu'à la fin, on va se croire dans l'armée, hein. Gauche-droite, gauche-droite,
que Philippe Solers connaît bien et qui s'écriait à la tribune de la Chambre en s'adressant à un homme de gauche, « Je vous réclame la liberté au nom de vos principes et je vous la refuse au nom des miens.
» Vous approuvez ce genre de formule ?
Pas du tout, naturellement pas. Mais vous savez bien que je suis un homme de gauche.
Monsieur le procureur général de la République, avez-vous une question à poser aux témoins ?
Ouais, moi, je veux dire que j'aime beaucoup Philippe Solers, simplement je trouve que c'est dommage qu'il écrive. Et je voudrais lui demander dans son prochain roman, parce qu'il a une manie, il écrit des livres sans mettre les points. Vous écrivez des phrases sans mettre la ponctuation. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un bouquin où vous mettriez que les points ? Là, j'achèterais.
Oui, ce serait plus lisible. Le, si je suis là, c'est parce que le prochain sera très ponctué, très classique, et enfin, d'Ormesson n'aura pas à défendre quelqu'un d'un peu fou, mais on verra très bien que je sais mettre ce qu'il faut.
Et alors, pourquoi ce changement ?
Pour faire son intéressant.
Voilà. Comme toujours. Non,
pourquoi ce changement ? Pourquoi décider de
Parce que ça m'est venu, comme ça, tout à
parce
coup.
Parce que vous vieillissez, oui. Et que vous dites peut-être...
Non,
c'est le
pas du tout. J'avais envie de montrer, justement, que je savais faire la baigneuse, l'aquarelle, enfin...
Ce qui est étonnant dans votre cas, excusez-moi, ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que vous avez une expression orale parfaitement classique, qui n'a absolument rien à voir avec votre écriture. C'est bizarre. Oui. Tandis que M. d'Ormesson écrit un peu comme il parle.
Je ne trouve pas, non. Problème de diction ?
Non. C'est ponctuation.
Alors, ça vous irait si j'écrivais comme je parle ?
Oui.
Eh bien, je vais le faire, alors.
C'est pas...
Monsieur le procureur, je...
Oui, c'est voilà. Que cette réflexion, c'est pas... Si je vous oserais dire, c'est pas si bête. C'est pas si bête.
Ça veut dire qu'il a dit la même chose à Aline Renaud, elle a pas compris. Mais... Ah, pour... L'audience est reprise. Je vous rappelle que comparaît devant ce tribunal Jean d'Ormesson. Nous écoutons le procureur général de la République des Proches Françaises.
Française, Français, Belge, Monsieur le Comte, Monsieur le Président de Pacotille, Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, ma chère petite Follette, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? À rien. à rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le glandouiller sans honte dans ce minable tribunal de pitres grotesques, à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glèbe hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des 40 plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leurs pensées séniles. N'avez-vous pas honte, monsieur d'Ormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses? Rien dans la cafetière, tout dans la coupole. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrombe? Je vais le répéter, ça. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome? Vous qui êtes encore jeune et fringant, malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique de beau poupon. N'avez-vous point honte, à votre âge, un grand garçon comme vous, Jeanne, de vous déguiser périodiquement en guignol vert pomme avec un chapeau à plumes à la con et une épée de panoplie de Zorro? Est-il Dieu possible qu'un écrivain aussi sérieux que vous fasse partie des 40 papilles à tremblotte, tout juste encore bon à réchauffer leurs os cliquetant au soleil du front de Seine, en se demandant s'il y a un N ou deux N à Zigounette? N'avez-vous point honte, Jean d'Ormesson, de fricoter dans les belles lettres en compagnie de Jean Missler, d'Henri Bordeaux, d'André Mauroy ou de Jean Dutour? Autant d'écrivaillons tellement inexistants que je me demande s'il n'y en a pas déjà la moitié de mort. Est-il Dieu possible qu'il existe une précocité du gâtisme? Peut-on être gâteux précoce comme on est éjaculateur mondain? Enfant précoce, pardon. Si cela était, cette question n'amènerait alors une autre encore plus terrible, monsieur d'Ormesson. Et c'est à vous que je la pose. Serait-il Dieu possible que des gâteux écrivent dans le Figaro? Je ne puis le croire, mesdames et messieurs les jurés. C'est en 1635 que Richelieu de Rouault créa l'Académie française. Pourquoi ce nom d'Académie française? C'est la question que tout le monde se pose, sauf Maître Rigaud qui s'en fout, du moment qu'il n'a pas froid aux genoux et qui peut brouter tranquillement sous son pupitre la morue séchée que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado.
J'en ai de la très bonne en ce moment, si vous en voulez.
Tu m'invites? Pourquoi Académie française? Eh bien, justement, pour éviter que les bougnoules étrangers ne vinssent poser leur cul basané sur les bancs des Français. Pourquoi Académie? Alors là, c'est plus compliqué, je vous demande à tous un effort d'attention. Vous n'allez pas être déçus. Avant que Richelieu de Rouault ne le réquisitionnât, le magnifique bâtiment surmonté de la célèbre coupole et flanqué de deux très belles bâtisses que tout le monde connaît, sauf Rigaud, ce magnifique bâtiment abritait une boulangerie. La boulangerie du maître boulanger Jean-Baptiste Quai-Conti, où Henri IV lui-même venait acheter ses fameuses baguettes bien cuites que son amant Sully lui découpait en mouillettes pour les tremper dans le bouillon de poule au pot tous les dimanches. Il faut vous dire qu'à cette époque, on ne faisait pas le pain comme aujourd'hui. On fabriquait la croûte d'un côté et la mie un peu plus loin. C'est pourquoi il y avait ces deux bâtisses. Les clients fortunés comme Henri IV ou Marguerite de Valois achetaient évidemment la croûte et la mie. Mais les pauvres, qui depuis le début de l'humanité ont toujours eu des goûts simples. C'est vrai, j'en connais un qui n'a même pas de magnétoscope. Les pauvres, dis-je, n'achetaient que la croûte. Et quand un pauvre arrivait devant la double boutique de maître Jean-Baptiste Quai-Conti, il demandait « Pardon, notre bon maître, où c'est-il qu'il y a des croûtes ?» Et le brave boulanger répondait invariablement en montrant les deux portes « C'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mies. » Or, par un beau soir de printemps 1635, le cardinal de Richelieu, qui était de fort belle humeur, il venait de se faire amidonner la soutane par une jolie repasseuse de la rue Dauphine. Le cardinal, dis-je, oui c'est vrai, cette blanchisserie existe d'ailleurs encore aujourd'hui, 14 rue Dauphine, vous pouvez vérifier, elle a seulement changé de nom, elle s'appelait avant à la calotte qui lui, en hommage à Richelieu, Et aujourd'hui, ça, elle s'appelle, je pense, le pressing du Sahel, nettoyage à sec. Vous pouvez... Donc, Richelieu se promenait, un peu raide, au bord de la Seine, lorsque son regard fut attiré par le trottoir souillé de miettes de pain à la hauteur de la boulangerie de Maître Quéconti. « Dégueulassum est !» dit-il en latin et en lui-même. Il fit mander dès le lendemain le boulanger et le tança d'importance pour cette dégradation de la chaussée. « Vous pourriez faire votre pain plus loin, » dit le cardinal. « Oh, vous savez, moi je fais où on me dit de faire, » rétorqua cet homme, qui était déjà parisien. Outré par tant d'impertinence, Richelieu ordonna qu'on lui coupât la tête, ce qui fut fait dans l'heure. Puis, pris de remords, il donna au bord de Seine, en cet endroit, le nom de Quai Conti. « Monsieur le cardinal, j'aime beaucoup ce que vous faites, » dit Louis XIII, qui était con comme un bourbon. « Mais que va devenir cette immense boulangerie dont vous étiez tâte le chef ?»« Que sa majesté besogne en paix son autrichienne, j'y ai songé, » répondit Richelieu. « Je vais tout simplement remplacer toutes ces vieilles croûtes par des vieux croutons. » L'Académie française était née. Puis, s'avisant soudain qu'on était déjà en 1635, Richelieu et Louis XIII décidèrent qu'il était grand temps d'aller bouffer du Bosch s'ils ne voulaient pas que la guerre de 30 ans se terminât sans eux. Donc, Jean d'Ormesson, mon petit bonhomme, vous êtes coupable. La peine capitale ayant été abolie contre la volonté du peuple par un caprice des hordes roses hystériques qui font régner leur loi laxiste dans ce pays, je demande néanmoins aux jurés un maximum de fermeté. Étant donné que l'accusé n'écrit pas avec ses pieds, je suggère qu'on lui coupe les mains.
La Cour remercie le procureur de la République. La parole est à la Défense. Maître Rego, nous vous écoutons.
Merci, Président. Amis de la justice et des académiciens, ça baigne. De quoi est-ce qu'on accuse ton oncle Léon ?
Oh non !
Bon, j'avoue que j'ai rien compris au chef d'accusation, une fois de plus, et que ça va être dur pour moi de vous défendre, Monsieur d'Ormesson. Mais enfin, rassurez-vous, ça ne sera pas la première fois que je défends un client en ignorant tout de l'accusation et de l'accusé. C'est une méthode qui a porté ses fruits puisqu'il y aurait une accusation. C'est nier du coup son existence. Alors, monsieur Jean d'Ormesson, Harakiri, journal bête et méchant, vient d'être interdit dans deux départements il y a 15 jours. Charlie Hebdo est mort. Et vous et votre Figaro, vous êtes toujours là. Comment faites-vous ? On a dit un peu partout dans la presse que c'était la permissivité de nos mœurs depuis une dizaine d'années qui a tué Charlie Hebdo. Par contre, si le Figaro disparaît, on ne pourra pas dire que c'est la permissivité qui l'aura étouffé. Excusez-moi, monsieur d'Ormesson, mais pour moi, vous êtes un peu beaucoup, monsieur Figaro. Vous y écrivez depuis 12 ans. Depuis 12 ans, tous les jours, vous devez avoir un avis sur tout. Ça va du dernier congrès de la CGT jusqu'au dernier voyage de monsieur Chirac au BHV. Ça doit être épuisant de se tenir au courant de tout. Vous lisez les journaux ? Enfin, les gros titres, je veux dire. C'est pas pour parler de moi, quoique ce soit un sujet qui me passionne. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quant à moi, pour ma part, en ce qui me concerne personnellement, et à mon avis, très humble, je lis tous les journaux. Enfin, pas tous les jours, hein. Tous les gros titres. Quoique parfois, je vais un peu plus loin, et là, j'approfondis, et là, je lis carrément les sous-titres pour les nuances. L'année dernière, j'avais lu Le Monde du 4 septembre, que j'avais mis une semaine à le terminer. Faut dire que je lis lentement, et surtout quand je lis un journal objectif, alors là, j'ai des crampes au cerveau, je ne veux rien rater. Du coup, je vais jusqu'à lire deux fois le même article sans m'en apercevoir. Mais mine de rien, ça rentre, hein, ça rentre. Mais enfin, j'ai des progrès à faire par rapport à mon père, alors lui... qui est un vieux républicain de 87 ans, je suis né très tard, je vous vois venir, républicain au Portugal, ce qui a tout à fait une autre signification qu'ici, Alors mon père, depuis 50 ans, lit le même journal. Ce qui fait que quand il parle de politique, je ne sais plus si c'est lui ou le journal qui parle à sa place. Remarquez, c'est pratique quand je veux savoir ce qu'il pense. S'il n'est pas à la maison, hop, j'achète le journal. Des fois, à propos d'un événement, il m'arrive de lui dire « Mais père, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites là. » « Comment oses-tu dire que c'est pas exact ? C'est marqué dans le journal !» D'où l'expression « C'est vrai, c'est marqué dans le journal. » L'impression que j'ai avec les journalistes, c'est un peu la même qu'avec les médecins. « Votre tension a encore augmenté. » « Ah, merde !» « Le dollar a encore augmenté. » « Ah, merde !» Ou alors, vous avez une crise de foie. « Oh là là, encore !» Notre économie est en crise. Oh là là, encore. C'est pour ça que j'évite de lire les articles sur l'économie et d'aller chez le médecin. Ça me rend malade. J'ai dit tout à l'heure que je lisais tous les journaux. En fait, c'est parce que comme je n'ai aucune opinion, j'aime bien faire plaisir à mes amis en leur faisant croire que j'ai les mêmes opinions qu'eux. Quand je dîne chez mes amis de droite, je parle comme dans le Figaro. Quand je bois un coup au bistrot avec un camarade communiste, je peux m'exprimer comme dans l'humanité. Quand je sors avec un mannequin branché, j'ai le look d'actuel. Quand je dîne avec Dédé le procu, je fais du Paris Match carrément. Avec ma fille qui a 2 ans, je tape le style Pif Gadget. Je lui apprends à faire de l'électricité avec du vinaigre ou vice-versa. Avec ma femme, je féminise à mort, style Marie-Claire. Quand je vois des potes tolards, je cause comme dans Libé, ça m'éclate. Bref, grâce à la presse, tout le monde m'adore. Mais c'est pas facile, hein. Croyez-moi, quand je rencontre un pote communiste de droite, ça existe. Et que j'ai minute sous le bras, hop, je balance le journal immédiatement. Il faut être sur le qui-vive et avoir le réflexe rapide, hein. Ah, c'est pas évident à faire, hein. Mais revenons au Figaro, au journal des vieilles valeurs morales. Et ils ont raison, parce qu'il faut qu'il y ait des limites quand même, sinon où va-t-on ? Quand j'ai appris que je devais défendre M. d'Ormesson, je me suis dit, parler du Figaro sans le comparer à un autre journal, je risque d'être moins convaincant devant messieurs, dames les jurés. Alors j'ai fait un test à la manière de que choisir. J'ai donc acheté le Figaro et un autre journal au hasard. Hop, au hasard, Libération. Puis, je leur ai fait subir quelques épreuves. Voilà la première. Combien de kilos de patates peut-on envelopper respectivement avec la page centrale ? Le Figaro, 3 kilos. Libération, 2. Si la patate est légèrement humide, quelle est la résistance du papier ? Le Figaro craque en 2 minutes. Libération, 1 minute 30. Le test de l'index noirci au contact des pages. Le Figaro, l'index devient noir à la page des sports. Libération, à la page de garde. Le même test avec l'index humecté par la langue. Figaro, la langue est noire à la page des annonces immobilières. Libération, la langue est noire jusqu'à la glotte à la page des variétés. Quelle est la dimension du bonnet d'âne réalisé avec la page centrale ? Le Figaro, 43 cm. Libération, 32 cm. Ne riez pas, docteur Folie. Lorsqu'on manque de papier à rouler, rit la croix pour faire un pétard. Lequel des deux papiers est le meilleur ? Le Figaro, dégage trop de gaz carbonique. Libération, moins parce qu'il est plus cool. Pour tenir chaud au clochard, en hiver, sur les bouches de métro, lequel est le plus isolant ? Le Figaro retient très peu la chaleur. Libération, fait semblant de retenir plus. Voilà, après cette étude comparative d'un journal de droite et d'un journal de gauche, je schématise, bien sûr. Une conclusion s'impose. Selon ce que vous cherchez, l'un des deux journaux est mieux adapté. Si vous recherchez un beau duplex de 500 mètres carrés, avec terrasse,
dans l'IB, vous risquez de vous retrouver dans une chambre de bonne hyper flippante. Par contre, si vous cherchez une nana cool, qui a envie de s'éclater avec un mec sympa, pas coincé comme moi, dans le Figaro, aucune chance. Vous pouvez aller faire un tour rue de la Veuve Poignée immédiatement. Pour la politique, c'est kiff-kiff bourricot. Et je peux le prouver à l'instant même, ami de la justice. Ami de la cour, je vais poser une question à M. d'Ormesson à propos de l'interdiction de Harakiri, qui avait fait une blague, vous devez être au courant, bête et méchante, sur l'accident des bus à Beaune où 40 ou 60 enfants sont morts.
44 enfants.
44 morts, voilà. Les préfets des deux départements ont demandé l'interdiction de Harakiri. Ils l'ont obtenue. Alors voici la question à 10 francs. Lequel de ces deux journaux, Le Figaro ou Libération, ont écrit à propos de l'interdiction d'Harakiri, écoutez bien, monsieur d'Ormesson, les préfets des deux départements éprouvés par cette catastrophe?
Faut que je réponde?
Vous devez répondre. Lequel de Libération du Figaro a écrit cette phrase?
Libération.
C'est vrai, mais on dirait du Figaro. Oh, les préfets éprouvés par cette catastrophe. Tu vois le préfet éprouvé, claqué, mal à la tête, il bouffe plus. Il fait plus l'amour, il n'a plus envie de rien. Vraiment le mec claqué, éprouvé. Alors me demanderez-vous, maître Arago, que faut-il faire? Eh bien, faites comme moi, j'achète Libération et le Figaro, et puis je fais la moyenne. Je vais vous demander, amis de la justice et de la cour, de me dire tous ensemble, à demain, comme les fois précédentes. À demain, cher public. Amis de la justice, ça baigne!
Merci. L'audience est levée.
Nous sommes à la tribunal, dont on parle dans le journal. Qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez la table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il n'y a vraiment rien de pire. Les flagrants.
C'était le NRV La Suite, France Inter Plus de Tribunal des Flagrants Délires avec l'académicien Jean d'Ormesson. Demain, c'est une émission cultissime avec Jean-Marie Le Pen qui va se présenter à la barre. Un des plus grands moments humoristiques de l'histoire de France Inter. Et oui, je vous souhaite le bonsoir.